Bonjour à tous. Heureusement, Benjamin m'a dit, tu peux le mettre en route ton micro, mais je le coupe là derrière. Parce que si je chantais avec le micro, je crois que c'était une catastrophe. Est-ce qu'on a passé une bonne semaine? Je crois vraiment qu'il y a des semaines que ça cogne. C'est difficile, même si nous sommes enfants de Dieu. C'est difficile. Et puis, on arrive le dimanche. Et je crois que c'est un bon moment de dire stop. Je mets tout de côté et j'attends ce moment pour glorifier mon Dieu, pour adorer mon Dieu. Et un moment où Dieu veut nous parler. Ce matin, je vais commencer par ceux qui sont mariés. Est-ce que vous connaissez votre mari ou votre femme? Ouais, moi, ça fait 20 ans que je suis marié. Je peux dire, oui, je la connais maintenant, ma femme. Elle me connaît, certainement. Mais il y a des choses que je ne connais pas encore et qu'elle ne connaît pas encore de moi. Peut-être que vous, ça fait plus 30 ans, 50 ans de mariage, mais il y a des petites choses encore qu'on ne connaît pas de notre femme, de notre mari. Ainsi pour nos enfants. Est-ce qu'on les connaît, nos enfants? Oui, on les connaît. Mais il y a des choses qu'on ne connaît pas encore de nos enfants. Et aussi, nos enfants, est-ce qu'ils nous connaissent? Oui, ils nous connaissent. Mais il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que je connais mes collègues? Je passe 8 heures avec eux, mais je ne connais pas tout de mes collègues. Est-ce que je connais mon chef? Oui, je connais les défauts de mon chef. Mais est-ce que je le connais vraiment? Je ne connais pas tout de mon chef. Est-ce que je connais ma famille, mon frère? Oui, je les connais, mais je ne connais pas tout d'eux. Est-ce que je connais mes voisins? Oui, je les connais, mais pas tout. Je me souviens, oh, maintenant ça date, je n'étais pas encore converti, ni mon frère. Et mon frère avait vraiment un désir, c'était une Bible. Il voulait une Bible à tout prix. Et nous sommes partis à l'église catholique près de chez nous, pas loin. On voulait voir le curé pour avoir une Bible. Et justement, il n'était pas là. Mais on sait bien où il habite. On va aller chez lui. Et on était chez lui. Effectivement, il nous a donné une Bible. Et tout en parlant, je ne sais pas pourquoi, et il nous a dit, vous voyez toutes ces maisons qui sont là? Eh bien, on ne connaît pas les gens qui sont là. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans ces maisons. Et c'est vrai, c'est maintenant que je réalise vraiment ce qu'il dit. On ne connaît pas tout. On ne sait pas tout de chacun de nous. Et ce matin, je voudrais m'arrêter sur un psaume encore, le psaume de David, le psaume 139, un psaume qui est très très connu, où David montre toute la grandeur de Dieu, que Dieu seul le connaît parfaitement, l'intérieur comme l'extérieur. Il connaît toute sa vie. C'est le psaume le plus chanté, les versets 7 à 12 des Juifs. Ce psaume, on peut le partager en quatre parties. Et ce matin, les trois premières parties, je vais dire qu'une parole. Je veux vraiment qu'on s'arrête sur la dernière partie. J'ai été vraiment frappé, touché par ce dernière partie. Mais on va lire tout ce chapitre 139 et j'ai demandé à ma sœur Rose si elle veut bien le lire et qu'on puisse être attentif à cette lecture. Merci Rose, que Dieu bénisse vraiment sa parole. Alors, comme je vous l'ai dit, juste une petite parole dans cette première partie du verset 1 à 6, on voit vraiment l'omniscience de l'Éternel. L'Éternel, c'est tout. Et David dit, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres de loin ma pensée. Dieu qui sait tout, tout. Et la deuxième partie, c'est l'omniprésence de l'Éternel. Dieu est présent partout, partout. C'est les versets 7 à 12. David dit, « Où irai-je loin de ton esprit ? Si je monte aux cieux, tu y es. » Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Dieu est présent partout. Troisième partie, c'est l'omnipotence de l'Éternel. Ce sont les versets 13 à 18. Le Dieu tout-puissant. David sait qu'il est tout-puissant. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère, le Dieu Tout-Puissant. David reconnaît que Dieu le connaît parfaitement. David reconnaît qu'il est partout en même temps. Et il reconnaît qu'il est Tout-Puissant. Dieu me connaît. Dieu vous connaît. Quand je m'en vais travailler, il est là. Quand ma femme s'en va travailler, il est là. Quand vous partez, il est là. Et il est tout puissant. La quatrième partie, les versets 19 à 24, c'est le titre que j'ai mis, que Dieu est un Dieu de justice. Il est juste. Son jugement sera juste. Et on va relire ces versets pour qu'on puisse comprendre ce qu'il dit David. Ô Dieu, c'est le verset 19, ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On voit que David, dans cette prière, change de ton. Mais j'insiste sur cela, le psaume reste toujours le même. On ne peut pas le changer. On ne peut pas dire cette dernière partie-là, ça ne compte pas. Non, il change de ton, mais le chapitre reste le même. C'est la même prière. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? David s'exclame contre le méchant. David peut-il parler ainsi? Et là, on doit savoir, et vous le savez, que David est roi. Il est roi, non par successeur de son père, non, mais par Dieu. Dieu a voulu qu'il prenne la place en tant que roi. Il est roi, mais aussi il a la crainte de l'Éternel, qui veut dire aujourd'hui un enfant de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. David a été choisi par Dieu en tant que roi. Et en tant que roi, il a l'autorité de défendre la justice. Il a le pouvoir de dire à cet homme, oui, il peut vivre, non, il doit mourir. Il a cette autorité-là. Et David doit défendre la justice. Il doit défendre la justice. Et David s'exclame contre le méchant. Contre le méchant. C'est qui le méchant? Mais dans Proverbes 5, 22, il dit que le méchant est pris dans ses propres fautes. Il est retenu par les liens de son péché. Oui. Le méchant, c'est l'homme qui commet le péché. Le péché. Et David s'exclame contre celui qui commet le péché. Il doit défendre la justice en tant que roi. Et David le dit à Dieu, que Dieu connaît cet homme ou ces hommes. Dieu les voit et il est tout puissant pour agir. Mais David le dit à Dieu parce que, tout simplement, Dieu est le seul juste et son jugement sera juste. Alors, dans cette quatrième partie, il y a le A. Dieu connaît toutes ces personnes qui te font du mal. Il connaît tous les méchants. Peut-être c'est ton collègue, Peut-être c'est ton voisin, peut-être c'est ton frère, quelqu'un de ta famille. Il les connaît. Dieu les voit. Et il est tout puissant pour agir. Mais nous remarquons dans la parole de Dieu que c'est un Dieu de patience. Un Dieu de patience. Dieu veut que ces hommes qui sont méchants, qui commettent le péché, reconnaissent qu'ils ont péché. Jésus est venu pour sauver le pécheur. Et il demande, Dieu, que l'homme ainsi que la femme se repentent de tous leurs péchés. Dieu les aime. Dieu aime le méchant, mais il n'aime pas ce qu'il fait. C'est pourquoi Jésus est venu pour mourir pour le pécheur. Il y a quelque chose qui est important et qu'il faut le dire. S'ils ne croient pas, dans Jean 3, 36, il est dit que la colère de Dieu est sur eux. La mort, c'est la mort à cause de leur péché. C'est ça la colère. C'est la mort à cause de leur péché. Et Dieu est juste et son jugement sera juste. Alors dans ce petit A, je remarque une chose, mes frères et sœurs. Pourquoi pas cette semaine avoir un temps de prière, passer dans la prière pour le méchant. Demandons à Dieu que le méchant se repente et qu'il vienne au Seigneur. Parce que c'est un Dieu juste et son jugement sera juste. S'il ne se repent pas, c'est la mort éternelle. Prions pour le méchant. C'est difficile, mais nous sommes appelés à prier pour le méchant. Et puis on voit que David s'exclame contre ceux qui prennent le nom de Dieu pour mentir. Et là, on doit savoir, et vous le savez, que personne, je dis bien personne, pouvait réprimander un roi. Sauf les sacrificateurs et les prophètes. On voit ça dans 1 Samuel au chapitre 13, quand Samuel va voir Saül. Il réprimande Saül. Et là, David s'exclame contre ceux qui prennent le nom de Dieu pour mentir. Qui veut dire quoi, mes frères et sœurs? Mais ce sont des faux prophètes qui prennent le nom de Dieu pour mentir. Ils viennent pour réprimander David. Ils parlent de Dieu, mais pour mentir. Pour mentir, ce sont des faux prophètes. Et David sait très bien que le problème de ces faux prophètes, c'est la mort. C'est dans Deutéronome, au chapitre 18, les versets 20 à 22. Un faux prophète, c'est la mort. C'est le jugement de Dieu qui est juste. Il annonce quelque chose qui est faux. C'est mentir. C'est la mort. Et David le dit à Dieu, que Dieu les connaît, les voit ces faux prophètes. Et il est tout puissant pour agir. Et son jugement sera juste. Alors, dans cette quatrième partie, il y a le B. Dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 2, les premiers versets, il est dit, il y a eu des faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs. Il y a eu des faux prophètes, aujourd'hui ce sont des faux docteurs. Aujourd'hui on les voit, ils prennent le nom de Dieu pour mentir pour mentir ces faux docteurs. Mes frères et sœurs, je vais peut-être aller un peu plus loin sur les faux docteurs. Où est-ce qu'ils sont, ces faux docteurs? Ils sont dans l'Église, les faux docteurs. Ils se présentent comme des ministres de l'Évangile. Mes frères et sœurs, on fait plus attention aux personnes qui se disent athées, on s'éloigne de ces gens-là. On a peur. Mais les faux docteurs, eux, ils rentrent dans l'Église, ils prennent la Bible et ils attaquent à l'intérieur pour réprimander le frère et la sœur. Ils prennent le nom de Dieu pour mentir. Et dans ce quatrième partie B, pourquoi pas? Pourquoi pas aussi cette semaine un temps de prière pour dire « Dieu, tu les connais, tu les vois, qu'ils puissent se repentir, ces faux docteurs. Son jugement est juste. On sait très bien que le faux prophète, c'est la mort, mais le faux docteur, c'est la mort aussi. Jésus l'a bien dit lors quand ils sont venus et ils ont dit « Seigneur, Seigneur, je ne vous connais pas moi, je ne vous connais pas. Oui, mais on a fait telle chose, mais je ne vous connais pas. » Les faux docteurs. Et son jugement sera juste. C'est pourquoi dans le B, prions pour ces faux docteurs. Prions pour eux. David, tout simplement, n'aime pas ceux qui sont contre l'Éternel. David, en tant que roi, doit défendre la justice de Dieu. Mais là, on voit une prière de David. C'est dans le verset 23. Une autre prière qu'il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » On a vu que David s'exclame contre le méchant et contre ceux qui prennent le nom de Dieu pour mentir. Et David fait une autre prière. Il parle de lui-même. Il demande à Dieu de regarder dans son cœur, dans ses pensées. Et on connaît David. Les choses extérieures qu'il a faites, il y a des choses qui sont mauvaises. Mais ce qui est à l'intérieur, on ne sait pas. On ne les connaît pas dans son cœur, dans ses pensées. Mais il sait que Dieu le connaît. Dieu le voit. Et il est tout puissant. C'est pourquoi il demande à Dieu, « Regarde mon cœur, regarde mes pensées. » Il est tout puissant pour agir. Beaucoup de gens, et je le remarque alentour de moi, au travail, beaucoup de gens parlent « Mais t'as vu celui-là ce qu'il a fait? Mais c'est injuste! T'as vu à la télévision, il a tué telle personne, mais c'est injuste !» Mais on ne regarde jamais ce qu'on a fait, nous. Jamais. Et dans cette quatrième partie, c'est pourquoi pas demander à Dieu cette semaine aussi. Au son de moi, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Son de moi. Moi, ça m'arrive d'aspirer ma voiture. Et quand j'aspire ma voiture, je commence un peu partout, les tableaux de bord, les sièges. Et puis, je commence à aspirer les tapis. Le problème, c'est que en dessous du tapis, je le fais rarement. Parce qu'il faut retirer, il faut appuyer, il faut retirer le tapis, il faut aspirer. Ça me prend trop de temps. Et je dis, et puis, Qui va le voir en dessous des tapis? Ils ne vont pas commencer à rentrer et regarder en dessous du tapis. Il n'y a que moi qui le sais. Myriam, hier j'ai aspiré ta voiture, mais j'ai retiré les tapis. C'est plus facile. Elle est plus petite, la voiture. Sonde-moi. Sonde-moi. Sonde-moi dans mon cœur, dans mes pensées. Est-ce qu'on aspire là, dans mon cœur, dans mes pensées? Mes frères et sœurs, je parle pour moi peut-être, il est plus facile de traiter les péchés qu'on voit que ceux dans mon cœur et dans mes pensées. Mais un péché dans mon cœur et dans mes pensées, je le dis avec vraiment tristesse, mais ça ralentit la relation avec Dieu. C'est comme si on avait mis le frein à main et on ne s'est pas avancé. Et on se demande pourquoi, mais pourquoi? Pourquoi? Mais quand tu demandes « sonde-moi », Dieu te montre. C'est une vérité, mes frères et sœurs. Quand je lui demande, il me montre directement dans mon cœur ce qui se passe, dans mes pensées ce qui se passe. Je dois vivre une vie de sanctification, de demander pardon. Oui, je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Mais pour avancer, tous les jours, je dois demander pardon, ce qui se passe dans mon cœur, dans mes pensées. Le point C, prions pour que Dieu puisse sonder mon cœur, mes pensées. Et je termine dans ce verset 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. C'est aussi, on peut penser qu'il dit, regarde si je suis sur une voie d'idole. Regarde si je ne suis pas sur une voie d'idole. La semaine passée, Mehdi nous a parlé de l'idole. On pense directement à idole, à des statues en bois, de fer, de pierre, etc., taillées. Ça pue. On pense à cela, et on doit penser à ça, mais il y a autre chose, bien sûr. Et c'est dans le point D, dans cette quatrième partie. Cette semaine aussi, prions pour que Dieu regarde si je suis sur une mauvaise voie, une voie d'idole. Une voie d'idole. Je vais donner quelques exemples, mais l'idole, ça pourrait être le travail. Ma voiture, ma maison, mon sport, et on peut mettre autre chose. Ce sont les choses qui prennent la place de Dieu. Je dirais, où on met plus de confiance à ces choses qu'à Dieu. Mais ce matin, je ne voudrais pas m'arrêter sur ça. Je pense vraiment pour moi, qui m'a beaucoup touché. Je pense une idole qui est mon ministère. Mon ministère peut être une idole. Parce que mes yeux sont fixés que sur mon ministère. Et ça peut être une idole. Pourquoi? Parce que je me dis, je passe beaucoup de temps dans mon ministère. Et puis, je dis, ben c'est moi qui a fait ces choses-là. C'est grâce à moi qu'il y a ça. C'est grâce à moi qu'il y a telle et telle chose. Mon ministère peut être une idole. Mes yeux doivent être fixés sur Jésus-Christ. Et quand mes yeux sont fixés sur Jésus-Christ, je peux dire comme l'apôtre Paul, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Oh, que c'est beau. Et mon frère veut m'apprendre cela, mon frère Paul. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Mes frères et sœurs, David pouvait vivre de son ministère en tant que roi et ne pas regarder l'Éternel. Mais il ne l'a jamais fait. Il regardait toujours à l'Éternel. Et on voit dans cette prière, il demande à Dieu de regarder le méchant, de regarder dans son cœur, de regarder celui qui est faux prophète. Il demande à Dieu. Ce n'est pas lui-même qui va faire cette justice. Pourtant, il pouvait le faire. Il est roi, mais il ne l'a pas fait. Je vais rappeler ces quatre points. Le A, prions pour le méchant. B, prions pour ceux qui prennent le nom de Dieu pour mentir, le faux docteur. C, prions pour nous-mêmes, que Dieu regarde dans mon cœur, dans mes pensées, et qu'il puisse me pardonner. D, prions pour que Dieu puisse regarder si je suis sur une mauvaise voie, une voie d'idole, et qu'il me reconduise sur la voie de l'Éternel, le chemin de Jésus-Christ, qui le dit lui-même, « Je suis le chemin ». Et une fois qu'on est sur ce chemin, ah ben c'est la vérité, il le dit lui-même. On va parler de la vérité. On va dire ce que Jésus nous a enseigné pour nous-mêmes. Et c'est sur une voie de l'éternité, parce que Jésus est éternel. Je suis sur cette bonne voie. Alors oui, Dieu me connaît, Dieu vous connaît, je ne vous apprends rien. Oui, Dieu est partout. Oui, Dieu, son jugement sera juste. Et je termine par ça. Est-ce que vous voyez Dieu parce qu'il me connaît, parce qu'il me voit partout et son jugement sera juste, qu'il est avec son bâton en train de te regarder et dire « Attention, tu as dépassé la ligne, paf !» Est-ce que vous voyez ce Dieu comme ça? Peut-être que je me trompe, mais moi je ne vois pas un Dieu comme ça. Plutôt un Dieu qui est venu vers moi et dire « Gino, tu t'es trompé de chemin. Reviens vers moi. » Et puis, je dis « Oui, j'accepte. Je suis un pauvre pécheur. Et je suis avec lui, dans cette marche avec lui. C'est une nouvelle, un nouveau chemin. » Et là, oui, Dieu me connaît, Dieu me voit. Et il me demande, « Eh ben, vas-y, montre la justice de Dieu sur cette terre. Annonce qu'ils peuvent être sauvés, ou sinon c'est le jugement. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen.